Vous écoutez
RMC.
Merci d'avoir choisi RMC. C'est lundi matin. Il est 7h.
RMC, Apolline Matin.
Et le journal, c'est avec Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous. La rentrée galère ce matin en région parisienne. La fermeture d'une partie de l'autoroute A13 à l'ouest de Paris à la faute à une fissure sur la chaussée. Conséquence d'un mouvement de terrain, on va vous expliquer. La rentrée à distance pour la jeune Samara, agressée au début du mois devant son collège à Montpellier. Le rectorat sur place annonce des sanctions disciplinaires à l'encontre de ses agresseurs. Et puis le foot, c'est Paris qui se rapproche d'un 12e titre en football. Facile, vainqueur de Lyon, 4-1 hier soir.
Et puis après le journal, des enfants rescapés de l'attentat de Nice à la barre. Plusieurs vont témoigner lors du procès en appel qui s'ouvre aujourd'hui. Vous allez les entendre après ce journal et on sera en direct avec la maman de Kenza, 11 ans aujourd'hui. Elle va témoigner sa maman avec nous dans 10 minutes sur RMC. La mauvaise surprise donc ce matin pour les franciliens qui reprennent le travail.
Oui, parce que la 13, un des grands axes de l'ouest parisien, est fermée sur toute la partie Paris-Vaucresson. La faute donc à une fissure qui a été repérée en fin de semaine dernière à cause d'un mouvement de terrain. C'est la conséquence. C'est embêtant parce que l'axe est très emprunté, 100 000 véhicules par jour, et parce que les solutions de repli sont aussi payantes. Marion Gauthier, vous êtes en direct ce matin pour RMC depuis l'aire de Montesson avec des automobilistes obligés de payer pour aller au boulot ce matin.
Oui, alors pour le moment, la circulation est plutôt fluide. Il y a du monde malgré tout au péage de la 14, l'une des autoroutes les plus chères de France. Dépenses imprévues pour beaucoup qui soupirent en glissant leur carte bleue dans l'automate. Les artisans notamment, ils sont nombreux. Petites camionnettes blanches et celles sur le toit. Certains de leurs conducteurs s'agacent car le tarif est proportionnel à la taille du véhicule. Ce sont les entreprises qui trinquent. Et à 6h, le prix du péage a augmenté pour tout le monde. Heure de pointe oblige. Les plus informés ont donc anticipé et se sont levés bien plus tôt que d'habitude pour réduire les coûts et éviter les bouchons annoncés. Reprise difficile, me soufflait un automobiliste rentré de vacances hier soir. Une petite centaine de kilomètres de bouchons cumulés déjà autour de Paris, d'après le site Citadin. La circulation se densifie, notamment sur les deux itinéraires alternatifs à l'autoroute A13.
C'est la fin des vacances aussi ce matin à Montpellier. Reprise des cours, donc au collège Arthur Rimbaud. Collège devant lequel la jeune Samara, 13 ans, avait été rouée de coups au début du mois. Trois adolescentes, 14 et 15 ans, ont été mises en examen depuis. Le rectorat de Montpellier a annoncé hier soir contre des mesures disciplinaires. L'adolescente, elle, va reprendre les cours, mais à distance, Julien Coudreau.
Son état de santé ne lui permet tout simplement pas, même s'il s'est amélioré depuis son agression, selon le rectorat. Impossible de reprendre les cours également, selon son avocat qui décrit une ado quasi mutique, apeurée à l'idée de sortir dans la rue. Samara va donc suivre des cours à distance pour lui permettre de bénéficier d'une continuité pédagogique depuis son domicile dans l'attente de son retour. C'est le souhait notamment de sa mère. Pas de rentrée non plus pour les mises en cause qui ont interdiction d'entrer dans leur établissement respectif. Tous n'étaient pas scolarisés dans le collège de Samara, mais tous passeront bientôt en conseil de discipline. À brève échéance, selon le rectorat qui affirmait hier soir renouveler sa confiance aux équipes du collège Arthur Rimbaud, la rectrice pourrait rencontrer ses personnels ce matin alors qu'un préavis de grève a été déposé par la section locale du syndicat SNES-FSU pour dénoncer notamment le silence des autorités jusqu'alors.
Un propriétaire de manège est toujours en garde à vue ce matin à Blois après le drame du week-end, le décès d'une femme de 27 ans, c'était samedi soir. Éjectée de la nacelle d'un manège à sensations fortes à la fête foraine. Elle est morte de ses blessures à l'hôpital Nicolas Traîneau.
C'était l'une des nouveautés de la fête foraine de Blois cette année. Le NFL, placé désormais sous scellé, un plateau incliné sur lequel tourbillonnent des nacelles, sorte de banquette pour trois personnes, d'où cette jeune fille de 27 ans a été éjectée. La mairie de Blois s'associe à la douleur des proches et précise via son porte-parole Jonathan Dogan que l'attraction respectait les normes.
S'agissant des documents obligatoires, tels le contrôle technique et le contrôle que nous avons opéré avec l'aide d'un cabinet que nous avons mandaté, il n'y avait aucune réserve à l'ouverture de ce manège.
Suite à ce drame, deux personnes qui sont montées dans ce manège affirment auprès d'RMC qu'ils ne se sont pas sentis en sécurité. Mon fils a eu la peur de sa vie à cause de la barrière de sécurité jugée trop lâche au niveau de la taille, nous dit une mère sous le choc. Le chargé de communication de la fête foraine, Luigi Perrier, espère que l'enquête permettra d'éclaircir les causes de l'accident.
Si c'est une pièce qui est défectueuse, on espère juste que ça ne soit pas un manque de vigilance du forain. Maintenant, on ne va pas applaudir si c'est un mauvais comportement de la personne non plus. Car nous, une chose qui est sûre, on n'aurait jamais voulu que ça se passe.
Les professionnels, par précaution, rappellent qu'il faut bien tenir la barre de sécurité dans un manège et ne pas utiliser son téléphone portable.
Le ras-le-bol des maires en Seine-Saint-Denis, ils sont une dizaine ce soir à Pantin, où un rassemblement est prévu pour demander à l'État d'agir contre le trafic de cigarettes de contrebande, dénonçant un phénomène de plus en plus important à Pantin, Bobigny, La Courneuve ou encore Montreuil. La préfète du Val-de-Marne annonce qu'elle va saisir le procureur de Créteil après la polémique du week-end à Villeneuve-Saint-Georges, où le maire Philippe Gaudin a fait un salut nazi. Deux même, c'était samedi, en plein conseil municipal. Écoutez ce qui s'est passé avec Johanna Chabas pour RMC.
Lors du vote du budget, le ton monte. L'opposition accuse le maire d'avoir fait alliance avec l'extrême droite. L'élu Philippe Gaudin alors s'emporte, suspend la séance et fait un salut nazi. Il le refait ensuite en criant « Heil ». Contacté par BFM Paris, le maire s'excuse.
Moi, c'était plus une boutade qu'autre chose. Le geste est malheureux, j'en conçois. Il faut relativiser cette affaire-là. C'est pas du tout un geste d'appartenance. C'est pour ça qu'il faudrait déposer un maire. Parce que j'ai eu un geste malheureux. Si la préfète le décide comme ça, ben j'en irai, hein. C'est tout.
Mais ses excuses ne passent pas. Son adjoint dissident, Emmanuel Igougougnian-Zadig, compte porter plainte.
Il le fait à deux reprises. Et c'est ça qui est grave. Il a réfléchi à son geste. Dire aujourd'hui que c'est une boutade, que c'est un geste malheureux, non. C'est intolérable, c'est impardonnable, c'est injustifiable.
Il demande la démission du maire. La préfète du Val-de-Marne parle, elle, d'un geste inacceptable. Elle va saisir le procureur de la République, mais aussi la Chambre régionale des comptes, car suite à ce dérapage, le budget de la commune n'a toujours pas été voté.
Il est 7h06 sur RMC. Ce n'était pas une impression. L'Europe a connu l'année dernière un nombre record de jours où la chaleur ressentie par les Européens a été extrême. Voilà ce qu'annonce ce matin l'ONU et l'Observatoire européen Copernicus, à savoir donc une température ressentie qui dépasse les 46 degrés. Alors en ce moment, c'est plutôt un coup de froid qui nous surprend pour la saison, avec des gelées ce matin et des agriculteurs qui ont passé la nuit près de leur culture, comme Jérôme Vol de la FNSE, invité ce matin de RMC, qui a allumé des bougies dans son vignoble en Ardèche pour faire face au gel.
Tout est allumé aujourd'hui, hein, que ce soit les bougies lorsqu'on a des bougies, les éoliennes lorsqu'on peut prendre de la chaleur pour l'amener vers le sol et réchauffer le sol. S'il y a une chute de 2 degrés, en fait, on perd toute notre récolte. Donc il y a vraiment, on est sur le qui-vive une grosse partie de la nuit, et plus particulièrement à cette heure fatidique des 7h du matin.
Le foot, Paris se rapproche d'un 12e titre de champion de France de Ligue 1. Les Parisiens qui ont battu Lyon 4-1 hier soir avec un doublé de l'attaquant Gonzalo Ramos. C'était pour la fin de la 30e journée de Ligue 1. Paris qui a le vent dans le dos en ce moment, Arthur Perrault. Hein.
Oui, après une qualification en demi-finale de Ligue des Champions, Paris cartonne en championnat. Une victoire sans trembler et 11 points d'avance en tête du classement. Mais le capitaine Marquinhos reste prudent.
On enchaîne deux très bonnes prestations, très bons matchs, très bons résultats. Je pense qu'il faut continuer dans cette lancée-là. On a beaucoup parlé dans le vestiaire. Il ne faut rien lâcher maintenant. C'est le moment important de la saison qui est arrivé, moment décisif.
Luis Enrique a fait tourner son effectif. Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé sur le banc. Bradley Barcola et Gonzalo Ramos ont brillé. L'entraîneur parisien convaincu que son groupe est sur le chemin du succès.
Je crois que nous sommes à l'initio d'un projet.
Nous sommes au début d'un projet, mais oui, je vois mon équipe meilleure. On doit continuer à travailler, mais avec cette qualité d'effectif, on doit voir grand. J'ai beaucoup aimé notre match contre cet adversaire difficile.
À un rival difficile.
Paris peut espérer être champion de France pour la 12e fois dès mercredi soir, en cas de victoire à Lorient, tout en espérant un faux pas de Monaco contre Lille.
Et Monaco qui a repris la deuxième place en allant gagner à Brest 2-0, et Marseille a arraché le nul de partout à Toulouse grâce à un but à la dernière seconde, un ciseau de l'attaquant Faris Mbougnia.
Le journal de Quentin Vinet sur RMC, il est 7h08.
À suivre dans Apolline Matin sur RMC.
À suivre ce témoignage très fort, celui de la maman de Kenza, 11 ans, le 14 juillet 2016. Elle avait 4 ans et elle a échappé miraculeusement à l'attentat de Nice en passant sous le camion. Aujourd'hui, elle a donc 11 ans, elle va pouvoir témoigner au procès en appel qui s'ouvre aujourd'hui. C'est sa demande, c'est une première, on va l'entendre et on sera en direct avec sa maman dans un instant. À tout de suite.
RMC, Apolline Matin,
Sébastien Krebs.
Vous êtes bien sur RMC et RMC Story, il est 7h10.
Le témoin RMC.
Et on est ce matin en direct avec une rescapée de l'attentat de Nice en 2016. Bonjour à vous, Hajar Benaouissi.
Bonjour.
Bienvenue et merci d'être avec nous. Le procès en appel s'ouvre aujourd'hui pour deux proches du terroriste qui avait donc fait 86 morts le 14 juillet 2016 au volant de son camion sur la promenade des Anglais. Le procès qui s'ouvre à Paris, mais qui sera retransmis dans une salle à Nice. Et pour la première fois, des enfants de moins de 13 ans vont venir témoigner, dont votre fille Kenza, elle a 11 ans aujourd'hui. C'était votre demande, c'était sa demande ?
Non, c'était sa demande. Elle avait déjà demandé au procès en septembre 2022. Ils avaient été préparés en fait par le service du CE2P sur ce que c'est qu'un procès, ce que c'est que la place, leur place à eux dans le cadre de ce procès. Il y avait une petite BD qui avait été créée avec les pédopsies et l'association Mangeois qui avait été mandatée du coup par le ministère de la Justice dans le cadre du procès de Nice. Et c'est vrai qu'elle avait émis ce souhait de témoigner, de livrer et de déposer devant cette cour elle-même avec ses propres mots. J'étais réticente au départ. Je me disais qu'elle était petite et que j'avais peur pour elle, en fait, que de ce processus judiciaire qui peut être lourd à son petit âge. Et en fin de compte, c'est vrai que j'avais une discussion avec sa pédopsie qui l'a suivie depuis 2016, finalement, qui m'a dit « La parole est libératrice pour les adultes et, vous savez, elle peut l'être aussi pour les enfants. Si elle y voit du sens, il faut la laisser. Si elle se sent de le faire, il faut la laisser. » C'est vrai que Kenza avait une volonté déterminée de le faire. La veille de son témoignage au premier procès, le juge, en bienveillance, hein, je pense, a décidé qu'il n'écouterait pas les moins de 13 ans. Et ça a été très frustrant pour elle. Ça a été, voilà, elle en a pleuré. On a réussi à le faire lire par son avocate et à la faire assister à la lecture de son texte. Mais c'est vrai que elle m'a dit depuis que c'était pas la même chose, qu'elle voulait le dire avec ses propres mots.
Qu'est-ce qu'elle veut dire, qu'est-ce qu'elle vous dit, qu'est-ce qu'elle veut dire à la barre de ce tribunal, même si elle témoignera, on le précise, à distance, mais qu'est-ce qu'elle va dire au magistrat?
Elle veut raconter, voilà, quand je lui ai posé la question, mais pourquoi tu veux parler? Elle m'a dit, maman, je veux dire avec mes propres mots ce qui m'est arrivé, je me rappelle de tout, c'est pas ça qui va me faire replonger dans l'attentat, parce que de toute façon, je le vis tous les jours, je fais des cauchemars tous les soirs, dès qu'il y a un attentat en France, et malheureusement, depuis le 14 juillet 2016, ça se répète, il y en a eu à Nice, il y en a eu à Paris, il y en a eu à Moscou, on a eu le prof à Arras qui s'est fait assassiner encore en octobre dernier. Donc ça les replonge forcément, il y a des reviviscences. Elle me dit que ce dont elle a besoin, c'est de parler à cette cour. C'est un moment qui a du sens pour elle de le dire devant ce juge qui, lui, et c'est ce qu'elle m'a dit, va prendre la décision finale, en fait, et qu'il doit savoir quelles conséquences ça a eu sur eux, les enfants, et que ses enfants se rappellent de tout. Voilà, c'est ça qu'elle veut qu'on comprenne, c'est que les enfants se rappellent de tout, et que ce qu'ils ont vécu, ben aujourd'hui, ça a gâché leur vie, en fait.
Elle a un courage qui force l'admiration, Kenza, sur la façon dont vous la, en tout cas, la façon dont vous la décrivez. Je voudrais qu'on l'entende, Kenza, sur, justement, vous le disiez, ce qui reste aujourd'hui de cet attentat en 2016. Elle a répondu hier à nos confrères de BFM.
En fait, on a tous la même, pas tous la même histoire, mais tous la même peur. Tout à l'heure, il y a un ballon qui a explosé. Il y avait une copine à côté de moi, on a tous eu peur. Oui, peur de la foule, peur des camions de poubelles, peur quand il y a beaucoup de monde, quand il y a des gens qui courent, des ballons qui explosent, quand il y a tout. Fait d'artifice, oui.
Voilà, Kenza, 11 ans aujourd'hui, Hajar Benaouissi, vous êtes donc sa mère. Ce témoigner dans ce procès, ça va forcément remuer des choses, réveiller des choses. Comment est-ce que ces enfants, puisqu'ils sont neufs à témoigner, comment est-ce qu'ils vont être accompagnés?
Eh bien, on a chacun accompagné de leurs avocats. En fait, on travaillait leur témoignage, puisqu'en fin de compte, c'est une décision personnelle qu'ils ont prise. Après avoir pris cette décision, ben, c'est les parents qui acceptent ou pas, c'est les parents qui ont l'autorité parentale. Puis ensuite, c'est leur avocat qui décide de les proposer sur le planning. Le juge l'a accepté, ils sont déjà planifiés, leur témoignage est prévu, une salle de visio a été prévu exprès pour eux, puisque du coup, c'est vrai que pour les protéger un peu plus, on essaye de pas les confronter à la cour, donc ils ont quand même un endroit assez cocooning, hein, vraiment, qu'on a visité, parce que moi, ce que je veux quand ces enfants en tant que présidente maintenant de l'association des enfants victimes d'attentats, c'est les accompagner, les soutenir au mieux dans cette volonté que je vois déterminée pour rendre ce processus judiciaire le moins intimidant possible. Il est intimidant pour nous les adultes, mais il l'est aussi pour eux. Et malheureusement, ils l'ont vécu, ça, malheureusement. Ils y pensent tous les jours au quotidien. Malheureusement, là, dernièrement, il y a eu des menaces qui ont été faites sur les boîtes mail des lycéens eux-mêmes. J'ai beaucoup d'enfants dans l'association qui sont aujourd'hui lycéens, qui étaient petits lors de l'attentat, qui ont reçu ces mails et qui, depuis, ne vont plus au lycée, qui n'y arrivent plus, qui ont le traumatisme, qui ont ressurgi.
Oui, ces mails de menaces qui avaient été envoyés sur les espaces de travail partagés. Parlez-nous juste d'un mot de votre fille aujourd'hui. On l'a entendu, elle a toujours peur. Il y a le moindre petit bruit peut réveiller une frayeur. Est-ce qu'elle va à l'école normalement? Est-ce qu'elle est scolarisée? Est-ce que dans ses relations tout va mieux aujourd'hui malgré tout?
Alors, elle a été déscolarisée pendant très longtemps. Depuis l'an dernier, je l'ai inscrite dans une école qui est une école hors contrat, malheureusement, mais qui est une école à taille humaine, puisqu'ils sont 10 dans la classe. C'est une école privée, totalement spécialisée, j'ai envie de dire, où elle a réussi à reprendre confiance en elle, puisque du coup, la tension n'est pas du tout la même. Quand elle a une crise d'angoisse, quand elle se fait dessus, il y a une tolérance, il y a un accompagnement, une aide privilégiée qu'elle a, en fait, et elle arrive à du coup ne pas se sentir différente, trop différente ou trop exclue. Malheureusement, cette année, quand il y a eu les attentats du Hamas, l'enseignant qui s'est fait assassiner à Arras, ils ont fait la minute de silence, donc c'était trop troublant pour elle. Elle a vomi pendant la minute de silence et puis elle a arrêté d'aller à l'école pendant 4 mois à peu près. Hein. Donc elle a baissé de 4 points dans sa moyenne. On a rattrapé tous les cours. Donc, ce qui est bien, c'est que dans cette école, ils nous ont envoyé au jour le jour tout ce qu'elle a pu manquer. Donc, j'ai fait du mieux que je pouvais pour rattraper. Je lui ai pris une art thérapeute qu'elle voit 4 fois par semaine depuis le mois d'octobre. On
comprend que le moindre événement peut réveiller des choses et bravo pour son courage. Kenza, qui va donc témoigner au procès en appel de l'attentat de Nice. Vous êtes sa maman, Hajer Benaouissi. Merci beaucoup pour votre témoignage en direct ce matin sur RMC. Vous présidez aussi l'association Une Voix des Enfants, vous le disiez, qui accompagne donc ces enfants victimes d'attentats. Merci à vous, il est 7h18.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Et dans 20 minutes, on va essayer de comprendre pourquoi on a si froid. Retour des gelées, épisode assez pas banal, nous dit Météo France pour une fin avril. En tout cas, comment on l'explique? Nouvelle anomalie de notre climat déréglé. Le spécialiste du climat, Jean-Marc Jancovici, est mon invité à 7h40 et on vous attend au 32-16. Hein, si vous êtes vous-même touché par ce froid, si vous êtes agriculteur, si vous êtes en train de protéger vos cultures, venez témoigner au 32-16. Avant cela, le 7h20 d'Apolline Matin avec Amélie Rosic, avec Manu Le Chypre et avec Arnaud Demanche qui pirate le face-à-face. A tout de suite.
Apolline Matin.
Les indiscrets RMC.
C'est l'heure de plonger dans les coulisses de l'actualité ce matin avec Marion Gauthier. Bonjour Marion.
Bonjour Sébastien.
Les députés commencent à se pencher aujourd'hui sur le projet de loi sur la fin de vie. Et vous nous dites qu'en coulisses, Marion, le texte fait l'objet d'une bataille d'influence.
Tout le monde est concerné. Forcément, vous avez plus de mails que d'habitude, lance un membre de la commission spéciale. Énormément de témoignages de Français, souligne un autre. Mais aussi les classiques, communiqués de presse, d'associations, demandes de rendez-vous en circonscription. Et les premiers retours de ces rencontres, c'est qu'on peut faire douter les députés, se réjouit un opposant au texte. Sujet délicat, dit marge de manœuvre pour ceux qui veulent convaincre que la loi va trop ou pas assez loin. On met la pression sur nos élus, on veut les attraper pour leur dire ce qu'on réclame. Les jeunes de l'association pour le droit à mourir dans la dignité prévoient pour leur site internet un module d'interpellation, une lettre préécrite que les militants pourront compléter et envoyer à leurs députés. Déjà, le calendrier parlementaire se remplit. 13 mai, conférence organisée au Sénat. 16 mai, colloque à l'Assemblée nationale porté par le collectif soignant. D'autres dates restent à confirmer, précise des associations. L'enjeu, c'est l'examen du projet de loi en plénière. On va avoir beaucoup de travail avec les collègues, glisse une députée de la commission. Ils auront reçu énormément d'informations de tous les côtés, dit-elle, sans avoir autant travaillé le sujet. Ça ne fait que commencer. Lors des précédents débats sur la fin de vie, on avait eu des menaces de mort, rappellent plusieurs élus qui clament leur sérénité aujourd'hui, comme pour appeler au calme.
RMC, Apolline Matin, le 7h20.
Sébastien Krebs.
Le 7h20 d'Apolline Matin avec toute l'équipe, avec Amélie Rosic, avec Arnaud Demange et avec Manu Le Chypre. Bonjour à tous.
Bonjour.
Et bonjour à toi.
On commence par RMC s'engage avec vous, Amélie. Aujourd'hui, on parle de notre santé et d'une mutuelle pas très rigoureuse.
IRP Auto, plus précisément, si vous travaillez dans le domaine de l'automobile, a priori, vous la connaissez puisque c'est la mutuelle des professionnels du secteur. Et depuis quelques mois, eh bien, rien ne va plus. Plus de remboursement, plus de rentes versées, impossible de les contacter. Ce sont les assurés qui nous ont alertés, regroupés sur une page Facebook qui compte plus de 300 membres et qui ne cesse d'augmenter. Celso, par exemple, 62 ans, en février, il se fait poser une couronne dentaire assez classique. Depuis, il attend désespérément les 280 euros que doit lui verser IRP Auto.
Aujourd'hui, je paye 88,30 € de mutuelle par mois. Par contre, au niveau traitement de dossier et réponse au client, bah, c'est à leur bon vouloir. C'est pas normal. C'est pas ce que nous, on attend d'une mutuelle, si vous voulez. Surtout qu'on parle quand même de soins. On parle pas d'aller chercher une baguette. On n'a pas tous les moyens non plus d'avancer les fonds. Donc, c'est très compliqué.
Alors, Celso a fait un signalement sur le site du gouvernement Signal Conso, comme des dizaines d'autres assurés qui, pour certains, attendent des remboursements depuis décembre, mais rien ne bouge.
Et c'est un grand groupe, IRP Auto ?
Oui, ouais, c'est un groupe qui compte 750 collaborateurs, 150 000 entreprises adhérentes et qui gère du coup la santé de 350 000 salariés ou retraités du secteur automobile. Solène Leroux les a donc contactés. L'entreprise dit être consciente des désagréments occasionnés. Et tout ça, ce serait la faute au changement du système informatique mi-décembre, nous dit-on. L'ancien logiciel a été fermé les 15 derniers jours de l'année dernière, ce qui a créé un volume important de dossiers en attente et du coup des délais considérablement prolongés. Et 4 mois plus tard, bah, c'est pas tout à fait fini. Je cite, des interventions quotidiennes perturbent encore nos services, avoue le groupe, qui prévoit un retour à la normale d'ici la fin du mois, évidemment. On vérifiera tout ça.
Et pour Celso ?
Eh bah, évidemment que c'est réglé. Hein. RMC avec vous est passé par là. Nous avons transmis son dossier à la mutuelle. Il a été contacté dans la foulée. Et quelques jours plus tard, ses frais dentaires étaient remboursés. 280 euros qui font du bien au portefeuille. Et on le comprend.
Voilà. Si vous voulez que votre dossier soit en haut de la pile, hein, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous contactez Amélie Rosic. L'adresse est RMC avec vous. @rmc.fr. Allez, on passe à l'actu éco avec Manu Le Chypre. On parle des chômeurs ce matin, Manu, parce que France Travail a contrôlé 523 400 demandeurs d'emploi l'année dernière. Combien y a-t-il de chercheurs actifs et surtout combien y a-t-il de mauvais élèves ?
Eh oui, bah, alors pour faire simple, hein, on va dire 2/3, 1/3. Il y a 65% des demandeurs d'emploi contrôlés en 2023 qui étaient effectivement en recherche active d'emploi. Il y en a 18% qui ont, comme le dit Pôle emploi avec des mots très choisis, avaient besoin d'être un peu redynamisés.
Et là, comment on les redynamise ?
Voilà, ça c'est les termes de France Travail. Et il y en a carrément 17% qui ont été sanctionnés pour recherche insuffisante. Alors, si on regarde ce que ça représente, parce qu'on a envie de se dire, bon, mais ça fait combien de personnes, finalement, ceux qui se la coulent un peu douce, bah, si on considère qu'il y a 3,2 millions de chômeurs en catégorie A, c'est-à-dire ceux qui ne travaillent au plus que quelques heures par mois, bah, ça fait quand même environ, allez, 500 000 personnes qui ne chercheraient pas d'emploi avec assez d'ardeur, mais qui ont peut-être aussi, pour d'autres raisons, des difficultés à rechercher un emploi. Près de la moitié des contrôles a concerné des métiers en tension, donc des secteurs pour lesquels il n'y a pas, évidemment, a priori, de difficultés de recrutement.
Et ça marche, ces contrôles ? Ça accélère le retour à l'emploi ?
Alors, modérément, si on regarde ce qui s'est passé 6 mois après les contrôles effectués, mais cette fois-ci en 2022, pour avoir un petit peu de recul, eh bien, il y a une petite moitié des demandeurs contrôlés qui avaient retrouvé un emploi. Sauf que derrière ce chiffre qui paraît plutôt positif, on s'aperçoit qu'il ne s'agissait d'un emploi durable, c'est-à-dire un CDI ou un CDD de 6 mois ou plus, que dans 17% des cas.
Les modalités de contrôle, en tout cas de la recherche d'emploi, vont changer, vont évoluer l'année prochaine, 2025.
Absolument. D'abord, elles seront plus globales. C'est le comportement général du demandeur d'emploi qui sera apprécié sur la base d'un faisceau d'indices multiples. Évaluation qui fait l'objet d'une expérimentation dans 8 départements aujourd'hui. Et puis les contrôles seront aussi plus nombreux. On était à 500 000 par an à peu près. L'objectif du gouvernement, c'est de passer à 1,5 million d'ici 2027.
Allez, Arnaud Demange, 7h27. Arnaud qui pirate face à face ce matin. Nayla Latrousse va recevoir le secrétaire général du Parti communiste, Fabien Roussel. Allez,
Ouais, c'est la fête. C'est fou comme le monde change. Hein. Il y a 50 ans, il aurait fait peur à tout le monde. Vous imaginez un révolutionnaire voulant faire de la France un pays communiste? On aurait dit les rouges sont à nos portes. Oh mon Dieu. Maintenant, Fabien Roussel, c'est un invité feel good. Hein. C'est terminé le temps où les communistes mangeaient les enfants. Maintenant, ils mangent des saucisses. La saison des barbecues commence. C'est la merguez. Ouais. D'ailleurs, en parlant de bonne bouffe, Fabien Roussel a célébré les 120 ans du journal L'Humanité ce week-end. Et vous savez qui a préparé le banquet ? Thierry Marx. Je vous jure, c'est vrai. C'est Marx. Marx a cuisiné pour les communistes. Ça s'appelle avoir le souci du détail. Alors, il leur a fait des chéviches dans des bols. C'est des bols chéviches. Ça avait l'air bon. Manu Le Chypre me disait, quand j'ai vu le menu, j'ai failli devenir communiste instantanément. Alors, L'Humanité relate le dîner dans un de ses articles et ils ont écrit, 8 cuisiniers sont au fourneau. 25 mètres d'hôtel vont et viennent. Un petit air de festival de Cannes. Hein, c'est plus que c'était le communisme. Hein. Moi, j'attendais des jambons beurre et un coup de rouge et tout. On n'aurait pas vu ça au siècle dernier. On n'aurait pas vu. Alors que Vladimir Ilitch Lénine s'avance à son tour sur le tapis. Rouge, forcément. Crâne rasé, moustache coquette. Sa femme qui porte des fossiles et des marteaux, évidemment. Alors, on parlera de la gauche, car l'espoir renaît à gauche. Un sondage indique que François Ruffin battrait Marine Le Pen en 2027 en cas de candidature unique. Il ferait le plein partout, il n'est pas clivant, il a une bonne dynamique. Alors, est-ce que ce sera lui ? Est-ce que ce sera lui dont la gauche torpillera la candidature en présentant encore 13 candidats différents ? Eh bien, on le saura avec Fabien Roussel, car on lui posera les questions qui fâchent à 8h30. Voilà. À tout à l'heure.
Et à tout à l'heure, Arnaud Demanche à 8h20.
Dans une heure.
À tout à l'heure. Dans un instant, la météo, le journal de 7h30.
RMC, Apolline Matin.
Le journal avec Élise Dangean. Bonjour Élise.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous. Démission d'élus en chaîne avec un nouveau cas dans le Rhône où un maire vient de mettre fin à 10 ans de mandat fatigué des violences et des lourdeurs administratives auxquelles il doit faire face. Un policier poursuivi pour violence intrafamiliale relaxé en appel alors qu'une loi interdit toute violence sur enfants depuis 2019. Et puis en football, Marseille a sauvé à la dernière seconde par Mumbagna face à Toulouse, match nul de partout, et Paris en tête du classement, à deux doigts du titre de champion de France.
Et on commence donc avec ce maire qui jette l'éponge.
Claude Cohen, 75 ans, rend l'écharpe, maire de Mions dans le Rhône depuis 2014. Il a annoncé sa démission ce week-end sur Facebook où il a dit sa solitude face aux lourdeurs administratives et à la violence qu'il subit. L'expression d'un mal-être profond, Solène Gardré.
Même s'il aime sa ville, Claude Cohen est fatigué de la diriger depuis 10 ans.
À chaque fois que vous voulez faire quelque chose, la lourdeur administrative est tellement importante alors qu'on pourrait aller beaucoup plus vite.
Il a aussi le sentiment de subir régulièrement des décisions et des normes décidées par d'autres instances.
On n'a pas d'aide de la métropole. La ville est traversée par des voies de chemin de fer. Ils veulent nous en rajouter deux. On est consulté à peine. Il va y avoir des lignes électriques qui doivent traverser la ville. C'est une décision de l'État sans consulter les maires. Ni l'État, ni les instances, ni la préfecture, personne ne nous entend. Donc au bout d'un moment, on baisse les bras.
À cela s'ajoute la hausse des violences et insultes envers les élus. Claude Cohen lui-même affirme avoir été victime d'injures antisémites. Ce malaise des maires serait la cause de près de 1500 démissions depuis 2020, selon Philippe Laurent, vice-président de l'Association des maires de France.
Ces communes moyennes sont confrontées à beaucoup de sujets compliqués. Il faut assurer toute une série de services avec des moyens qui sont relativement limités et avec un système normatif de plus en plus prégnant. Et je comprends qu'à un moment donné, on jette l'éponge.
Il appelle à décentraliser davantage de décisions pour redonner du pouvoir au maire.
Le procès en appel de l'attentat de Nice s'ouvre aujourd'hui avec devant la cour d'assises spéciale de Paris les deux proches du terroriste les plus lourdement condamnés en première instance. Ils ont écopé de 18 ans de prison pour leur complicité dans cette attaque qui a fait 86 morts et plus de 450 blessés. Un autre procès en appel dont la décision fait beaucoup réagir. Le policier Yves Mila, poursuivi pour violence sur sa femme et leurs enfants, a été relaxé par la cour d'appel de Metz qui estime donc que les faits sur les enfants relèvent du droit de correction parentale. En première instance, il avait été condamné à 18 mois de prison avec sursis. Mais au-delà du retour en arrière, c'est une décision qui va tout simplement à l'encontre du droit. C'est ce qu'estime l'avocate pénaliste Sandrine Pégan.
Avant, on pouvait corriger nos enfants quand c'était dans une visée éducative. Depuis la loi du 10 juillet 2019, cette loi a interdit toute violence ordinaire éducative. Ce qui veut dire qu'on ne peut plus donner de fessée. On ne peut plus tirer les oreilles de son enfant, même s'il s'affranchit des limites et qu'il ne nous respecte pas. C'est une décision qui est jurisprudentielle, qui est sans fondement légal. La Cour d'appel de Metz reconnaît des violences légères, mais il les justifie en disant que c'était mesuré, que c'était adapté au comportement de l'enfant et donc du coup relaxe l'auteur. Et c'est ça qui est assez incroyable.
La famille et le parquet général ont donc saisi la Cour de cassation. 7h36 sur RMC, la vaccination des Français en hausse l'an dernier, notamment celle des nourrissons. Mais il y a encore du travail, prévient Santé publique France. Bilan chiffré à l'appui, car le taux de couverture pour la grippe ou le Covid diminue. Illustration en Ille-et-Vilaine avec Martin Cadoré.
Habituellement, Annie, 69 ans, se fait vacciner contre la grippe, mais pas cette année.
Du fait de mon âge, j'ai reçu un courrier par la CPAM en me disant que j'avais le droit d'aller chercher mon vaccin à la pharmacie. Et j'ai laissé passer le temps, et puis en janvier, je me suis dit, oh, bah, c'est trop tard pour me faire vacciner. Puis je me suis dit, bah, c'est plus la peine, je vais bien.
54% des plus de 65 ans se sont vaccinés contre la grippe cet hiver. Un chiffre en baisse par rapport à la saison précédente, et pourtant les conséquences sont bien concrètes.
Je suis tombée malade. J'étais clouée au lit pendant 15 jours, et j'ai eu du mal à me remettre. Bah, la grippe, moi, je vais la refaire.
La couverture vaccinale du Covid est aussi en baisse. Jean-Yves, 70 ans, avait pourtant fait les premières injections.
Pour le moment, c'est un petit peu oublié. Hein, en ce moment, on n'en entend pas parler du Covid. C'est peut-être aussi par rapport à la conjoncture qui est meilleure quand même.
Ce recul des vaccinations grippe et Covid n'alarme pas Sophie Vaux, épidémiologiste à Santé publique France.
Ça avait beaucoup progressé ces dernières années. Donc effectivement, là, juste sur la dernière, on a un petit retour à la baisse, mais ce n'est pas forcément un problème majeur pour l'instant.
Concernant le Covid, elle insiste sur l'importance d'une autre injection pour les personnes les plus à risque. Une nouvelle campagne vaccinale leur est destinée. Elle a démarré le 15 avril.
7h37 en football. L'OM a évité le pire hier soir en arrachant le nul à Toulouse de partout. Mais les Marseillais font du surplace et restent bloqués à la 9e place du classement. Aurélien Tiercin.
La série de défaites marseillaises s'arrête à 3 grâce à l'égalisation de Faris Moumbania à la dernière seconde d'un retourné acrobatique.
Déjà un ciseau comme ça, il m'a rappelé Jean-Pierre Papin.
L'entraîneur Jean-Louis Gasset est frustré par le match nul, mais préfère retenir le positif.
Égaliser à la 95e, ça veut dire qu'on est dans le bon état d'esprit.
Le coach comprend bien que son équipe tire la langue, 2 suspendus, 7 blessés, sans oublier les prolongations de jeudi dernier en Europa League à digérer.
On a 2 problèmes. Les joueurs qui avaient joué les prolongations et qui étaient fatigués, et ceux qui n'étaient pas inscrits pour l'Europa League qui ont un problème de rythme.
Malgré tout, le milieu Hasdine Ounahi sait qu'un nul ne suffit pas à Marseille.
On a parlé, on ne doit pas se contenter d'un match nul et rentrer à la maison et de dire voilà, on a fait le taf. Et on se met dans la tête que voilà, en championnat, il faut vraiment qu'on fait beaucoup, beaucoup plus.
L'OM a l'occasion, ce mercredi en match en retard contre Nice, de passer 7e en cas de victoire.
Et de son côté, le PSG a bouclé une grande semaine pour reprendre les mots du coach Luis Enrique. Après leur victoire face au Barça en Ligue des Champions, les Parisiens ont écrasé Lyon 4-1 en clôture de la 30e journée de Ligue 1. Et avec 11 points d'avance en tête du classement, Paris peut espérer décrocher le titre de champion de France dès mercredi lors de son déplacement à Lorient. Monaco a repris la 2e place à Brest.
Le quintet, c'est à 13h55 sur l'hippodrome de Bordeaux-le-Bouscat.
Et voici le pronostic de la Dream Team des courses RMC. Leur favori aujourd'hui, c'est le numéro 6, Mon Ouragan. Et l'outsider, c'est le numéro 11, Paco. La course du quintet à suivre en direct sur RMC Découverte.
Élise Dangean pour le journal sur RMC et RMC Story, 7h39.
RMC, 6h39h.
Apolline Matin.
Et Géraldine, nous le répète depuis ce matin, couvrez-vous, c'est l'hiver, du froid sur une bonne partie de la France et même des gelées par endroits ce matin, inhabituel en plein mois d'avril, surtout après les températures estivales qu'on a connues au début du mois. Comment comprendre cet épisode? Qu'est-ce qui se passe? Nouvelle anomalie climatique et surtout, comment s'adapter à cette nouvelle donne pour éviter notamment la catastrophe pour les agriculteurs? Vous allez tout comprendre dans un instant avec l'invité d'RMC ce matin, c'est le spécialiste de l'énergie et du climat, Jean-Marc Jancovici, qui est avec nous en direct. À tout de suite.
RMC, Apolline Matin.
Et cette chute des températures continue de vous faire réagir ce matin au 32-16 et sur l'appli RMC, rubrique direct studio. On passe du short au gros pull, écrit Christophe depuis l'Isère. Il a dû rallumer le chauffage dans sa maison. Ce n'est pas le cas de Caro. Rien n'a rallumé. Je me lève avec la chaleur de mon poêle à bois. Pour la mi-saison, c'est parfait. Par contre, c'est moins drôle pour nos 4 pommiers qui sont déjà en fleurs. Alors, grosse pensée aux agriculteurs et aux arboriculteurs. Aurélien, de son côté, est installé à Narbonne. Nous n'avons quasiment pas allumé le chauffage cet hiver. Ce cela pourrait être une bonne chose. Mais quand on voit le niveau de pluie, on se pose beaucoup de questions. Et puis Ludo, de son côté, nous dit que si on regarde les données météo de ces dernières années, on s'aperçoit que ce chaud-froid printanier s'est déjà produit plusieurs fois. On verra tout à l'heure, dans un instant, ce qu'en dit Jean-Marc Jancovici. Mais en attendant, continuez comme Ludo, comme Caro, comme Aurélien, à nous laisser des messages sur Direct Studio, à nous appeler au 3216. Combien fait-il chez vous ce matin? Comment vous adaptez à cette chute des températures? Si vous êtes agriculteur, si vous travaillez en extérieur, vous avez la priorité ce matin sur RMC. Venez nous raconter votre quotidien au 3216 et sur l'appli RMC, rubrique Direct Studio.
RMC, Apolline Matin,
Sébastien Krebs.
Merci d'avoir choisi RMC ce matin, 7h42.
L'invité du jour.
Bonjour Jean-Marc Jancovici.
Bonjour.
Merci d'être avec nous en direct ce matin. Vous êtes ingénieur, spécialiste du climat et de l'énergie. Vous présidez le think tank Shift Project. On a besoin de vos lumières ce matin face à ce retour très très brutal de l'hiver, le retour du gel en plein mois d'avril. Pas banal, nous dit Météo France, dans le contexte climatique actuel. Comment il faut voir ça, selon vous, comme une nouvelle anomalie ou comme une forme de soulagement parce qu'on va peut-être éviter un nouveau record de chaleur ce mois-ci?
En fait, l'anomalie, c'est plutôt les températures qu'il a fait jusqu'à maintenant. Les épisodes de gel au mois d'avril, c'est pas rare historiquement, et même les épisodes de gel au mois de mai, c'est pas rare. Vous savez que jusqu'au sein de glace, il est possible d'avoir des épisodes de gel, et d'où le vieux proverbe « en avril, ne te découvre pas d'un fil ». Ce qui se passe depuis quelques années maintenant, c'est que en fait, en avril, il y a des températures très élevées. Du coup, la végétation débourre. Vous avez les feuilles et les fleurs qui apparaissent plus précocement qu'avant. Et à l'occasion d'un épisode de gel qui est entre guillemets normal, c'est-à-dire qui devient effectivement plus rare, mais qui peut toujours survenir au mois d'avril, voire début mai, à ce moment, on peut avoir des gros dommages à la végétation, parce que plus la végétation est avancée en floraison, et plus les dommages peuvent être importants pour les cultures fruitières et éventuellement un certain nombre de plantes.
Où est-ce que vous voyez l'explication de ces changements de température et finalement de parfois cet été un peu précoce, le froid qui revient et effectivement avec les conséquences que ça a, et on va y revenir, mais vous voyez une explication scientifique? On est là sur une nouvelle illustration des dérèglements climatiques dont on parle régulièrement?
Oui, c'est une conséquence tout à fait attendue. Le fait que les températures augmentent globalement, c'est quelque chose qui est tout à fait attendu. Donc, dans le cadre du réchauffement climatique en cours, les températures hivernales ont tendance à devenir plus douces. Le nombre de jours de gel diminue, mais il ne passe pas à zéro. C'est-à-dire, c'est pas parce que le réchauffement climatique est là que l'hiver va devenir plus chaud que l'été. L'hiver sera toujours plus froid que l'été. Ça, c'est quelque chose qui va durer aussi longtemps que la Terre sera placée comme elle est placée sur son orbite. Et donc, le réchauffement climatique fait qu'il y a de plus en plus fréquemment des épisodes de canicule hivernale, comme on dit. On a battu des records de chaleur là, il n'y a pas très longtemps. Mais, encore une fois, ça n'empêche pas la survenue de temps en temps d'épisodes froids. Simplement, ils sont plus rares, mais il y en aura toujours.
Il y en aura toujours, vous nous dites ce matin. Il y a les phénomènes de sécheresse, il y a les canicules d'été, il y a ces gelées tardives. Finalement, pour les agriculteurs qui sont évidemment très soumis à la météo, on ne peut plus rien prévoir, ça devient extrêmement compliqué. Là, on est dans la configuration la pire. Les fleurs ont commencé à bourgeonner et le gel revient.
Alors, c'est une configuration qui est désagréable, effectivement, pour les gens qui ont des cultures fruitières. On ne peut plus rien prévoir. Si, si, on peut prévoir des choses quand même, je le redis. L'hiver sera toujours globalement plus froid que l'été. Par contre, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir un climat qui va devenir de plus en plus variable. C'est ça qui est en train de se passer en ce moment. Et avec des conditions qui ne sont pas les conditions stables que nous avons connues pendant des siècles, voire des milliers d'années. Et donc, là où on avait l'habitude de faire des abricots, ben, ça deviendra plus difficile de faire des abricots. Là où on avait l'habitude de faire de la vigne, ça deviendra plus difficile de faire de la vigne. C'est malheureusement ça, le changement climatique. Et ça va être dû à la fois à une variation des températures et aussi à une variation des précipitations. On se souvient de l'été dernier, par exemple, ou de l'année dernière, par exemple, où la récolte d'olives a été extrêmement mauvaise en Espagne à cause de la sécheresse. Il y a également eu des épisodes de sécheresse très marqués en Italie il n'y a pas très longtemps. Et en France, de temps en temps, il y a des épisodes de sécheresse marqués. Là, l'hiver a été pluvieux, et tant mieux. Mais il faut se rappeler qu'on sort de 2 ans de sécheresse quasiment ininterrompue.
Mais on peut encore s'adapter pour sauver notre agriculture dans ce contexte?
Alors, on peut sauver quelque chose, mais sauver tout, non. En fait, ce qu'on appelle l'adaptation, classiquement, de temps en temps, ça sera malheureusement un renoncement. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on pouvait faire et qu'on ne pourra plus faire. S'il y a globalement moins d'eau qui est disponible en France, eh bien la totalité de l'eau disponible pour les cultures, elle sera moins importante. Et donc, on aura moins de cultures et des cultures différentes.
À quoi on doit renoncer? Vous avez des exemples?
Oui, bien sûr. Si, par exemple, on a suffisamment d'eau pour faire du maïs irrigué dans le sud-ouest et qu'on n'a plus assez d'eau, on va devoir renoncer au maïs irrigué. Voilà un exemple. Si on renonce au maïs irrigué, ça veut dire le maïs, c'est pour nourrir les animaux, c'est pas pour nourrir les hommes, le maïs fourrage. Si on renonce à ce maïs, ça veut dire qu'on a moins de nourriture pour animaux et donc on aura moins d'animaux à nourrir et donc on pourra en produire moins, par exemple.
Jean-Marc Jancovici, vous avez reçu la semaine dernière pour un débat à Angers au sein de votre think tank Shift Project toutes les têtes de liste aux élections européennes, enfin toutes sauf une puisque Jordan Bardella lui a décliné l'invitation. Est-ce que vous les avez trouvées à la hauteur de ces enjeux?
Alors moi, j'étais pas là pour distribuer les bons et les mauvais points dans ce cadre-là. J'étais essentiellement là pour les faire en sorte qu'ils s'expriment chacun pendant quelques minutes sur un thème précis. Donc ça ne fait malheureusement pas un espace suffisant pour savoir ce qu'ils ont exactement au fond des tripes. Ce qui est sûr, c'est que l'enjeu environnemental est un enjeu absolument crucial des élections européennes parce qu'il faut rappeler que 80 à 90% de la réglementation applicable en France en matière d'environnement aux entreprises et aux particuliers vient de directives et de règlements européens. C'est notamment le cas pour l'agriculture. L'agriculture, c'est le plus gros budget de l'Europe, on en parlait à l'instant. La façon dont on va organiser notre agriculture à l'avenir dépend au premier chef de pour qui on va voter à ces élections européennes.
Vous n'avez pas le sentiment que l'écologie ne fait plus recette aujourd'hui? On voit que la liste écologiste est donnée très basse dans les sondages. Ça n'est pas un thème de la campagne, en tout cas à ce stade.
Alors, l'une des choses que je dis depuis toujours, c'est que l'écologie, ce n'est pas l'apanage des écologistes. C'est-à-dire que se préoccuper de l'environnement et avoir des activités qui soient en harmonie avec notre environnement et en harmonie au sens où ça peut durer dans l'environnement qu'on a.
On voit peu de candidats en parler et les mettre au cœur de la campagne pour l'instant.
C'est quelque chose qui concerne tous les partis. Je veux dire, c'est pas parce que vous n'êtes pas un parti écologiste que pour autant vous pouvez penser que vous avez un programme qui n'a pas besoin de la planète Terre, qui n'a pas besoin de ses ressources, qui n'a pas besoin de son atmosphère, qui n'a pas besoin de ses sols, qui n'a pas besoin de son agriculture, qui n'a pas besoin de ses forêts. Donc en fait, l'écologie et l'environnement, au sens où nos activités doivent tenir dans la boîte ce qui s'appelle la planète Terre, ça concerne absolument tous les partis. C'est l'une des choses qu'on souhaitait rappeler à l'occasion du débat qui a été organisé à Angers. Et c'est pour ça que quand on se préoccupe d'environnement, on n'est pas limité à un seul bulletin de vote. En fait, ce qu'il faut obtenir, c'est que tous les partis s'en préoccupent.
Merci Jean-Marc Jancovici d'avoir été l'invité d'RMC ce matin et d'RMC Story en direct. Jean-Marc Jancovici, ingénieur climat énergie. Très bonne journée à vous, il est 7h50.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Et dans un instant, expliquez-nous Nicolas Poincaré.
Et je vous explique que le porte-avions français Charles de Gaulle s'apprête à quitter Toulon pour des manœuvres pour la première fois. Il va être placé sous commandement américain.
A tout de suite.
Apolline Matin.
Le bonus RMC.
Le bonus de Martin avec ce matin la nouvelle sitcom signée Jamel Debbouze.
Oui, et quand on parle de sitcom et de Jamel Debbouze, on pense forcément à ça.
Ah oui,
la série H, le quotidien de cette équipe de bras cassés au sein d'un hôpital en région parisienne. Et un tout jeune Jamel Debbouze, star de la série avec son fameux « Dites-moi pas que c'est pas vrai ». 26 ans plus tard, on le retrouve donc à partir de ce soir dans Terminal.
La tête à genoux, les fesses à plat ventre.
Ouais, t'as gâté.
Série. Toute la clique remet ça et cette fois, il nous emmène donc à l'aéroport pour nous raconter le quotidien de la compagnie aérienne Flywings, présentée comme la plus low des compagnies low cost. La recette est toujours la même, des blagues, des vannes et une sitcom tournée en public. Jamel Debbouze, acteur, Jamel Debbouze, réalisateur. On trouvera aussi des invités de marque, Kad Merad, Manu Payet ou Camille Cotin. Ça s'appelle donc Terminal et ça commence ce soir sur Canal.
La tête à genoux, les fesses à plat ventre.
T'as gâté.
RMC, Apolline Matin.
Vous êtes sur RMC et RMC Story, il est 7h54.
Expliquez-nous.
Expliquez-nous, Nicolas Poincaré, le porte-avions français Charles de Gaulle va quitter son port de Toulon cette semaine pour être placé sous le contrôle de l'OTAN. Et c'est une première.
Oui, une première historique. Jamais un porte-avions français n'avait été placé sous un commandement étranger. C'est donc ce qui va se passer pendant deux semaines. Le Charles de Gaulle, qui est le seul porte-avions français, il fut un temps où on en avait deux, ce n'est plus le cas. Le Charles de Gaulle va participer à des manœuvres de l'OTAN en Méditerranée. Pendant 15 jours, il sera sous le contrôle opérationnel de l'OTAN. Non seulement lui, le porte-avions, mais aussi le groupe aéronaval qui l'accompagne, c'est-à-dire les avions de chasse Rafale, les avions de surveillance, les hélicoptères, et surtout la flottille qui entoure le Charles de Gaulle, c'est-à-dire des frégates pour le défendre, un ou plusieurs sous-marins et un navire ravitailleur. Tout ce groupe, soit environ 3000 marins français, seront à la disposition de l'OTAN.
Et concrètement, qu'est-ce que cela signifie ?
Eh bien, ça signifie que pendant deux semaines, le fleuron de la marine française répondra aux ordres d'un Américain. Le pacha du navire, qui est le seul maître à bord, restera le commandant français, bien sûr, le capitaine de vaisseau Georges-Antoine Florentin. Il sera lui-même sous les ordres d'un chef du groupe aéronaval, français lui aussi, le contre-amiral Jacques Mallard. Mais tous les deux devront obéir à un amiral américain qui dirige la manœuvre depuis un état-major de l'OTAN qui est basé au Portugal.
Et ça ne plaît pas à tout le monde.
Et non, et pas en particulier à Jean-Luc Mélenchon, qui a fait part de sa tristesse face à ce qu'il appelle une vassalisation. La France serait pour lui, dans cette affaire, un vassal des Américains, c'est-à-dire un inférieur, un subordonné. Florent Philippot, l'ancien bras droit de Marine Le Pen, utilise à peu près les mêmes termes et parle d'une soumission historique aux Américains. Le ministre de la Défense, Sébastien Lecornu, dénonce des mensonges et affirme que la France ne perd jamais le commandement de ses forces lorsqu'elles sont placées sous pavillon de l'OTAN.
Et c'est vrai ?
Alors, oui et non. La France perd quand même le commandement puisqu'elle accepte de se placer sous les ordres d'un amiral américain, mais elle ne le perd pas vraiment puisqu'elle peut reprendre son indépendance à tout moment. Autrement dit, s'il devait y avoir par exemple une grave crise au Moyen-Orient ces prochains jours, eh bien la France pourrait reprendre la main sur le Charles de Gaulle pour utiliser comme elle l'entend les avions Rafale qui sont à bord, et elle pourrait reprendre la main en un claquement de doigts, précisent les spécialistes de la question.
Quel est l'intérêt de la France ?
Ah oui, les militaires et diplomatiques. Militairement, les manœuvres communes font progresser ce qu'on appelle l'interopérabilité, c'est-à-dire le fait pour les militaires de l'OTAN de mieux se connaître et de mieux coopérer. Et puis diplomatiquement, surtout, la France envoie un signal qu'elle est bien dans l'OTAN, aux côtés des Américains, face aux Russes et face à toutes les menaces possibles en Méditerranée.
Bon, il reste quand même une question, c'est la question des armes nucléaires.
Voilà, c'est la question sensible, puisque le Charles de Gaulle est un porte-avions nucléaire, mais ça veut dire simplement que son moteur est alimenté par une énergie nucléaire. Pareil pour le sous-marin nucléaire d'attaque qui l'accompagne. C'est un sous-marin à propulsion nucléaire, mais qui utilise des armes conventionnelles. En revanche, et c'est ça qui est sensible, il y a sur le porte-avions des rafales qui font partie de la force aéronavale nucléaire, la FANU. C'est une des composantes de la dissuasion française. Autrement dit, il y a ou il peut y avoir des bombes atomiques dans les soutes du porte-avions. Ce sont des missiles qui transportent une charge nucléaire de 300 kilotonnes, c'est tout de même 20 fois la puissance de la bombe d'Hiroshima. Mais il est évident que cette force nucléaire ne passe pas sous le contrôle de l'OTAN pendant ses manœuvres. Les armes nucléaires sont à la main des Français et, à vrai dire, d'un seul homme, le président de la République.
Expliquez-nous avec Nicolas Poincaré, chronique à retrouver bien sûr sur rmc.fr en podcast. Dans un instant, la météo de Géraldine Demory, le journal de 8h avec à la une le procès en appel de l'attentat de Nice qui s'ouvre aujourd'hui. Et pour la première fois, des enfants rescapés de l'attentat vont témoigner à la barre. On va les entendre. À tout de suite.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.